Bonsoir à tous, ici Max dans votre Afterwork Metal. Désolé de ce petit contretemps, mais il s'avère que les problèmes techniques peuvent parfois arriver sans qu'on les prévoie vraiment, on va dire. Donc, je suis ravi de vous retrouver pour une émission exceptionnelle en compagnie de Messaline pour une immersion totale et brute et sans concession dans l'univers du hard rock made in Brest. Et donc, c'est les copains de Messaline, donc groupe phare de la scène rock de Bourg-en-Bresse depuis plus de 20 ans, à l'occasion de leur sortie du tout nouvel album Alias Lilith, et ils sont, je pense, ravi d'être là, n'est-ce pas, hein, Mathieu, Eric?
Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous.
Oui, bonsoir, nous sommes enchantés d'être présents ce soir.
Ça y est, on s'entend enfin.
On a eu un petit problème, on ne s'entendait plus. Hein. Donc, ouais. C'est parfait.
C'est dommage pour un groupe de rock.
Ah, oui. Mais ça rend sourd très rapidement. Ça rend sourd. Et pas que la musique.
Ouais. Donc voilà, je suis ravi de vous recevoir pour aujourd'hui. En fait, on va quand même présenter un petit peu le concept. On est ensemble et on va... pouvoir écouter ensemble l'album intégral, votre dernier album en intégralité, justement, de la première à la dernière.
C'est un super, super concept, effectivement, que les auditeurs puissent découvrir l'album complet. C'est vrai qu'on peut l'écouter sur Spotify, Deezer, Amazon et compagnie, mais c'est vrai que là, comme ça, une radio, diffuser l'album, c'est super. Et on pourra sûrement, je pense... parler un petit peu des morceaux entre chacun, non,
je crois. On va parler un petit peu de tout. Voilà,
parfait.
Un petit peu de ça. Et, alors pour commencer, c'est vrai que du coup, j'ai dit Messaline, connue depuis 20 ans dans Brest, certes. Est-ce qu'on pourrait avoir une petite présentation un petit peu de Messaline, sur quelle est l'histoire de la rencontre des musiciens, d'où vient le nom Messaline?
Alors Messaline, je vais essayer de faire très très court. Allez, top chrono. Donc Messaline a été créée en 2005 sur les cendres d'un groupe qui s'appelait Absurde, qui faisait du prog metal. On avait sorti à l'époque deux albums chez Brennus, et puis Absurde a splitté, et le bassiste, le chanteur et l'un des guitaristes compositeurs sont restés. Et on s'est servi de base pour Messaline. On s'est adjoint un batteur qui s'appelle Stéphane Cordovado. Et avec ce quatuor, on a formé Messaline en 2004. Et en 2005, on a sorti notre premier album, Guerre pudique. Donc voilà, après, forcément, il y a eu des... Enfin, je dis forcément, mais c'est vrai que souvent dans un groupe qui se cherche et qui essaye de faire des choses, il y a des personnes qui arrivent, qui partent. Voilà, donc il y a eu pas mal de changements de line-up comme dans pas mal de groupes, mais et le gros truc, ça a été le départ de Michael Collignon, qui était compositeur avec moi dans Messaline, donc en fin 2017. Et donc en fait, pour moi, il y a deux versions de Messaline. Il y a le Messaline 2005 fin 2017 et puis le Messaline actuel 2018. Avec l'arrivée de Mathieu, principal compositeur à la guitare, comme Michael Collignon était principal compositeur à l'époque. Donc voilà, la V2 entre guillemets de Messaline, c'est 2018. Et donc il y a un batteur qui est arrivé à l'époque, qui est encore là, Alain Blanc. Et puis toujours en quatuor, on a attaqué dès 2018 assez fort avec cette nouvelle V2, puisqu'on avait fait dans la même année, première partie de Angeline Quasi K.O., première partie de Francis Descamps dans un festival dans le Jura, et première partie de Trust à Equinox. Donc c'est vrai que la première année, je les avais gâtés, mes petits compagnons. Et puis voilà, Messaline est devenue un quintet. Il y a quelques temps de ça, il y a environ 2 ans, avec l'arrivée d'Agnès Gilbert au chant, chœur et percussion, et ainsi que Charlie Schöfflin à la basse, qui est arrivé pareil en même temps qu'Agnès. Donc voilà, on a lavé, je ne sais pas combien de Messaline, mais là c'est la bonne, et c'est avec avec ce quintet qu'on a enregistré Alias Lilith, que vous avez ce soir entre les oreilles,
c'est
ou
cool,
entre
ça.
Les mains.
Et quand on y regarde, effectivement, entre la V1 de Messaline et puis la V12 d'aujourd'hui,
il y a plus que le vieux Eric Martela qui s'accroche au truc.
Il y a un changement de style aussi. Quand
oui, complètement. Là, c'est, je laissais la parole à Mathieu, mais c'est vrai qu'au niveau musical, oui. Après, effectivement, au niveau du concept, au niveau des textes, c'est toujours le même univers, puisque c'est ma chasse gardée, en fait, d'écrire les morceaux, sachant que je trouve que j'ai changé changer aussi de style d'écriture. Hein. J'étais plus optimiste et premier degré sur les premiers albums. Et puis là, je suis plus pessimiste et ésotérique maintenant, quoi. Mais niveau de, hein, Mathieu, au niveau de la musique, c'est vrai que il y a eu un.
C'est ce que je t'avais dit quand tu m'avais demandé pour entrer dans le groupe. C'est-à-dire, j'ai dit, moi, je suis pas Coco, quoi. Coco Angus, il compose dans un certain style. Moi, j'ai un autre style qui est peut-être moins métal, plus, peut-être plus diversifié. Enfin, il y a des influences similaires, hein, parce que la musique reste la même. Mais voilà, dans tous les cas de figure, moi j'enregistre beaucoup de choses, beaucoup d'idées. Puis j'essaye d'envoyer à Eric ce qui me semble être la suite de Messaline. En fait, depuis 2018, on a été assez stratégique dans ce qu'on a fait. C'est-à-dire que l'objectif, c'était quand même de ne pas trop désorienter au début les habitués du groupe. Donc les premiers morceaux qu'on a composés étaient dans un certain style. Et puis on a fait évoluer le genre, tout ça. Je pense que, mais de toute façon, j'avais entendu sur Radio B une fois une émission très intéressante avec un groupe lyonnais, je ne me rappelle plus le nom, c'était vachement bien, qui avait 20-25 ans d'existence. Et il disait, de toute façon, on ne peut pas faire tout le temps la même musique, le même album, parce qu'on vieillit. On prend de l'expérience, on a un autre regard sur les choses, on acquiert d'autres compétences et on a envie d'aller dans d'autres univers. Alors, faut pas non plus être totalement radical, mais ouais, faut tendre vers autre chose. Et puis, comme on avait des... Ouais, faut s'ouvrir. Avec Eric, on avait déjà collaboré par le passé sur deux tribute bands, un qui était consacré à Black Sabbath et puis l'autre à TFN. Je pense que Messaline d'aujourd'hui, c'est un peu le pied entre les deux. Voilà.
Ouais, c'est super intéressant ce que tu dis, parce que c'est exactement ça. Maintenant, quand on me demande un petit peu comment tu peux décrire Messaline, à qui ça te ferait penser, ou des fois on a des retours déjà sur les premières chroniques, des fois on nous dit effectivement des ambiances un peu Black Sabbath sur certains titres, hein, notamment comme Endo Hero qu'on écoutera tout à l'heure. Et puis c'est vrai, comme je disais tout à l'heure, que mon écriture est devenue un petit peu plus pessimiste peut-être un peu plus littéraire. C'est vrai que des fois, on peut sentir des réminiscences de TFN. Alors c'est vrai que c'est très drôle, j'y avais pas vraiment pensé, mais c'est vrai que c'est très drôle de savoir que les deux groupes avec lesquels j'avais collaboré avec Mathieu, c'était justement un tribute de Black Sabbath, où on avait eu l'opportunité de faire la première partie de Paul Di'Anno, premier chanteur d'Iron Maiden. Et effectivement, ce tribute à TFN, qui avait bien bien cartonné à l'époque, aux Arts dans l'air, et on avait eu plein de demandes, et on avait vraiment vraiment décidé de faire un one shot. Mais c'est vrai que effectivement, c'est cette ouverture d'esprit, ces univers se sont finalement regroupés sur ce Messaline là, quoi.
Okay. Ouais. Et donc du coup, sur le Messaline d'aujourd'hui, le Messaline d'aujourd'hui, on va dire, a pondu donc un dernier album tout récemment, hein, Alias Lilith.
Oui, tout à fait.
À quel moment vous tous, du coup, en tant que groupe, vous vous êtes dit que justement cet album-là, il allait être différent de tous ceux qui étaient déjà sortis ?
Je pense pas qu'on se soit dit que c'était différent, en fait, parce que de toute façon, on compose tout le temps. En fait, on s'envoie en permanence des idées, Eric et moi. Donc on avait un certain nombre de morceaux qui étaient déjà bien enclenché, et puis de toute façon, en fait, on essaie de voir les choses assez loin. C'est-à-dire que les plans d'action au sein du groupe, c'est pas tiens, je vais sortir un album. C'est en 2018, en 2027, il faut qu'on sorte quelque chose pour faire vivre le groupe et tout. Alors, est-ce que ce sera de la reprise ? Est-ce qu'il y aura de la compo, tout ça ? Et puis, on a un focus à peu près comme ça sur 3 ans d'avance. Et en fait, moi, je travaille avec plein de petits tiroirs. Je suis très organisé et je mets de côté. Tac, j'envoie à Eric. Il me dit, ah tiens, ça me plaît. Là, on a déjà composé
un titre complet.
Et puis, il y a d'autres choses qui vont émerger. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont mises à l'écart parce que ce qui porte quand même Messaline, c'est le texte, faut pas se leurrer.
C'est ça.
C'est le texte. La différence avec un groupe de métal, je dirais, conventionnel, c'est qu'on est plutôt un groupe à texte, à tendance rock, parfois métal. Voilà, c'est ça. Donc si Eric, il y trouve son compte et que ça l'inspire, il écrit quelque chose, après on se revoit, puis à partir de ça, on alimente... voilà.
Mais c'est vrai que depuis les débuts de Messaline, même encore aujourd'hui, hein, Eric, tu as toujours été très habile avec le jeu de mots, en fait, à jouer avec les mots, justement, à trouver des mélanges, des phrases qui sont uniques en son genre. Il enfin, y a ouais. des choses, des fois, on se dit, mais où est-ce qu'il va chercher ça, quoi.
Ouais, dans la drogue. Hein.
Je vous menteur.
Ouais, mais alors, quelle drogue en Brest ouais.
Ah, bah, un peu dans l'alcool. Non, dans l'ascétisme. Non, je sais pas, mais t'as raison. Oui, c'est vrai que depuis le début. Depuis les tout premières chroniques, même des premières chroniques qu'on avait fait, je me souviens une première démo en 90, donc c'était déjà à l'époque, avant Messaline, avec Absurde. En 98, on avait fait une démo, et dès la première démo, on avait été chroniqué dans Hard Force, qui était à l'époque le meilleur magazine, je pense, de Hard Rock. Il y avait Hard Rock Magazine, Hard Force, et Hard Force était vraiment le ouais, voilà, c'est... et on était passé dès notre première démo avec Absurde dans Hard Force. C'était Henri Dumatret, qui était un super journaliste de métal, qui était tombé dessus, qu'il avait chroniqué, et tout de suite, ils avaient souligné les textes, et c'est vrai que ça m'avait hyper motivé déjà dans le groupe Absurde, et puis après ouais, dans Messaline, et c'est vrai que voilà, ça revient, c'est vrai que c'est histoire de texte, parce que c'est super difficile d'être original quand tu fais un groupe de hard rock ou de métal, hein. On en a la preuve, hein. C'est-à-dire que chaque groupe sort des plein de morceaux, il y a plein d'albums qui sortent au kilomètre, c'est la musique au kilomètre, etc. etc. Y a rien, voilà. Y a peut-être effectivement là où on est un peu différent des autres, c'est déjà on chante en français, et puis le français c'est tellement casse-gueule, parce que c'est pas forcément au départ, soi-disant, une langue pour le rock. Donc déjà, il faut essayer de faire sonner les mots. Et des fois, c'est pas simplement une phrase, tu veux dire quelque chose. Et ben, tu vas essayer de peser tes mots pour que tes mots essayent de sonner. Et souvent, c'est vrai que quand Mathieu m'envoie des bouts de musique, je fais au départ, je trouve les lignes de voix, donc les mélodies. Et c'est vrai que les mélodies, je ne chante pas tout de suite, quand j'écoute de la musique, je ne chante pas tout de suite une phrase qui me vient comme ça. Je chante tout de suite une ligne de chant, donc des nanana ou des oh-oh, ce qu'on appelle du yaourt. Ou des fois, souvent c'est en anglais, enfin c'est du faux anglais, hein, du yaourt. Et après, mais t'as déjà une sonorité qui arrive. Et cette sonorité, après, t'essayes d'accrocher sur des mots français. Et après, tu te dis, ok, mais après, qu'est-ce que je vais dire avec ça ? Donc après, c'est un sacré boulot. Et je pense que la différence qu'il y a avec d'autres groupes qui écrivent des textes, c'est que je passe du temps sur les textes, et c'est pas la cinquième roue du carrosse, parce qu'il y a beaucoup de groupes, je les vois faire, hein. C'est-à-dire que voilà, ils composent, ils s'appliquent pour composer la musique, s'appliquent pour trouver un riff, s'appliquent pour faire des solos, des machins, puis à la fin, au cul du camion, entre guillemets, ils disent, merde, on va mettre des textes,
je vais mettre
I love you baby, I love you.
J'en ai pas encore eu ça dans
le scénario. C'est ça, voilà.
Là, le texte est au centre de la création.
Exactement.
C'est le deuxième pilier.
Pour abonder, moi, ça me convient tout à fait, parce qu'en fait, depuis que j'ai commencé la guitare, j'avais 10 ans, donc ça fait...
bientôt
50 ans. Ma volonté, ça a toujours été de composer. Et je suis absolument nul pour écrire des textes. J'ai fait du simili TFN quand j'avais 14 ans, mais ça ressemble vraiment à rien. Je suis pas très bon là-dedans. Et j'ai toujours eu la chance de travailler. Une fois avec Martial Victorin, on avait fait pas mal de compos quand on était ados, tout, ça tenait bien la route, tout. Et j'avais jamais retrouvé la personne qui véhiculait des textes et qui m'inspirait musicalement. Et avec la proposition d'Eric de rentrer dans Messaline, c'est pas la première chose à laquelle j'ai pensé, en fait, parce que je connaissais le groupe quand même, mais je m'étais pas complètement plongé dedans, encore qu'Éviscérer les dieux, j'avais adoré. Mais qui est de loin, pour moi, le meilleur album de la première période. Mais du coup, ça m'a rappelé ça, et puis... aujourd'hui, j'y accorde beaucoup d'importance. En fait, ce qui porte, c'est le texte. C'est fondamental. Et parce que c'est on chante en français et puis les textes sont bons. Donc voilà.
Justement, en parlant de textes bons, je propose qu'on s'écoute justement le tout premier titre de cet album, Alias Lilith, et donc tout premier titre intitulé Geisha. Et je crois qu'en attendant, on peut aller peut-être se manger des cailloux fenouilles, non?
Thank you.
Et on est de retour sur Radio B. On vient de s'écouter Geisha, tout premier morceau de Alias Lilith, dernier album de Messaline. On sent tout de suite quand même une énergie qui est particulière, qui est bien différente de ce qu'on peut connaître justement du Messaline d'avant. Ouais, donc on voit vraiment le changement. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de la création justement de Geisha ?
Alors, en ce qui concerne la musique, l'introduction de Geisha, il y a une partie acoustique où il y a Malo, un copain, Mallory Marais, qui fait de la guitare sèche. Moi, je suis à la 12 cordes, lui à la 6 cordes. C'est une réminiscence un peu de ce qu'on avait fait au Parc des Oiseaux avec Stéphane Echer, parce qu'on a une version acoustique de Messaline. L'idée, c'était de faire une transition avec l'arrivée de la guitare électrique qui sature un peu et le démarrage du riff très Black Sabbath, qui est un riff qu'on avait trouvé en répétition, en fait, qu'on a joué qu'une fois, mais comme j'enregistre tout, j'avais gardé de côté. Et en fait, Geisha, j'avais trouvé aussi cette partie RPG, un peu guitare sèche, tout. Donc c'était intéressant, parce que je ne savais pas si ça pouvait servir pour l'électrique, pour l'acoustique, tout. Mmh. Et en fait, c'est en rassemblant ces deux morceaux qu'on a créé Geisha. C'est l'assemblage de deux morceaux, en fait. Mmh. Voilà. Okay. J'étais étonné que ça fonctionne, mais bon... Ça fonctionne.
Ça marche bien. Et c'est vrai que comme il y avait un côté assez arpège au début, je sais pas pourquoi, je suis parti sur ce Mont Fujiyama et compagnie. Et puis après dans la tête, pareil, je suis parti sur le côté, il y a le côté un peu Kill Bill, hein, bien sûr, des grands coups de katana. Et puis ce côté femme forte, hein, on va voir dans tout l'album que le thème principal, c'est la relation avec la mort, la femme, la femme en général. Alors je sais pas, un psy de base dirait que on dit la mort, c'est féminin, donc ça c'est un peu, mais bon, ça c'est, on va pas faire non plus de la psychanalyse de comptoir, mais c'est vrai que voilà, il y a beaucoup de textes sur les femmes fortes, parce que c'est vrai que moi, bon, je suis en admiration sur les femmes fortes, hein, j'en connais une d'ailleurs.
Sur les fortes femmes.
Oui, les fortes femmes. Et donc voilà, c'est vrai que quand la musique arrive, et le thème du morceau aussi je l'ai trouvé, après c'est vrai que je délie ma plume, entre guillemets, pour prendre ce morceau-là. Et c'est vrai que je suis bien content de ce titre qui ouvre très très bien l'album que faisait Mathieu. Il y avait un clin d'œil au côté acoustique sur le concert qu'on avait fait avec Stéphane Echer en acoustique.
Le but de la placer en première, c'était d'avoir le clin d'œil par rapport
à l'acoustique. C'est ça. Et puis de la proposer aussi en électrique, puisqu'en fait on avait fait donc cette version acoustique. Puis ça met tout de suite les points sur les i ou les katanas, ou le katana dans le crâne, quoi.
C'est ça. Et est-ce que c'est ce morceau-là, on va dire, qui a donné le ton un peu au reste de l'album, ou est-ce que vous avez vraiment choisi
Non, c'était juste un bon morceau qu'on avait. Et de toute façon, on savait qu'il allait ouvrir l'album dès le début assez rapidement, parce que il se dégage. Il y a un côté poppy, énergique, une retombée, tout. En 5 minutes, ça résume assez bien ce qui va arriver derrière, en fait.
Ok. Et ben justement, ce qui va arriver derrière, c'est tout simplement un petit peu, on va dire, le premier single de l'album qui est sorti donc avant l'album, hein. L'Épicure d'Hadès, encore une fois avec un jeu de mots que j'aime beaucoup. Et donc on va se l'écouter tout de suite.
Normal. Quel constat, mais
c'est de retour sur Radio B qu'on vient d'écouter l'Épicure d'Hadès de Messaline. Franchement, on sent une énergie complètement différente, vachement funky, très dansante et tout.
On est parti vraiment. Là, je crois que c'est le premier premier morceau de rock'n'roll que Messaline fait, quoi. Sachant que je suis un peu le gardien du temple, donc je peux le dire. Hein, c'est vrai que avec tous les morceaux qu'on a fait avec mes anciens acolytes, c'est vraiment le premier morceau de rock'n'roll. Et puis quand Mathieu a commencé à balancer ses riffs et puis ses rythmiques, etc., on s'est dit tout de suite, ouais, y a vraiment le côté oldies rock. C'est pour ça qu'on s'est dit, on va encore aller plus loin. On va demander à Alexis Ponceau, qui est un super pianiste clavériste
du coin,
de venir faire des lignes de piano, mais des pianos à la Jerry Lee Lewis, hein, parce que c'était vraiment, il faut aller jusqu'au bout.
Très énergique.
Ouais, très énergique comme ça, il appuie sur les touches et tout ça. Il y a un côté vraiment rock'n'roll, quoi, vraiment vieux rock'n'roll. Et c'est vrai que, et puis après, bon voilà, il y a le refrain imparable qui tourne dans la tête.
En live, on va pouvoir le chanter à fond.
Effectivement, pour la release partie de l'album, on l'a fait aux Arts dans l'air. C'est vrai que on l'a joué pendant pour la setlist, et on l'a refait à la fin parce qu'on a eu un rappel. Et c'est vrai que comme il y a un clip aussi qui est, comme c'était un single, on a fait un clip en dessin animé. Et puis c'est vrai que la personne qui a fait notre clip, My League, est partie sur une danse macabre, parce que c'est vrai qu'il avait bien compris un peu là où je voulais en venir. Donc c'est un petit peu la dualité entre effectivement tout ce qui est bien et mal, et puis finalement peut-être qu'on va en faire, on se marre bien. Et le côté épicuriste, hein, donc c'est pas l'épicure d'Hadès, hein, Hadès nous envoie un petit peu ses fourches et ses piqûres, mais en fait finalement c'est peut-être aussi parce que pour se marrer, et que finalement on a tous le côté un petit peu épicurien. Et donc il était parti là-dessus sur une danse macabre, donc comme sur des anciennes peintures médiévales. Et on a un défilé comme ça de macabées, de morts. Et puis comme il y a le côté un peu festif, bah en fait il est fait sortir de terre, parce qu'il y a DJ Hadès qui le fait remonter comme ça des enfers, des sortes de morts vivants, et puis ils viennent un petit peu dans une espèce de club med des dieux, là qu'on voit dans le clip, une espèce de club med un peu des dieux, hyper avec flashy, comme tu disais, un peu funky et tout ça. Et c'est vrai qu'on les voit marcher avec une certaine façon de marcher. C'est vrai que pour le dernier en rappel, j'ai fait lever tout le monde. Aux Arts d'Alère, c'est vrai que c'est particulier, mais c'est vachement bien. C'est que tu as vraiment l'esprit club, où tu as les gens, tu joues devant des gens assis, etc. Donc tu fais lever à la fin, etc. Et on les faisait faire une espèce de danse walking like an Egyptian, et c'était vraiment très, très.
Ouais, ça marche bien.
Ouais, c'est bien marré. Ouais.
C'est fun.
Tu parles du clip, moi j'ai eu l'impression qu'il avait été composé sous LSD, c'est un truc comme ça.
Il y a un peu ça, Ouais, c'est ça,
absolument là. Pas.
Mais absolument, oui.
Non.
Et à quel moment, justement, vous avez eu le tilt en disant ça va être notre single?
Parce qu'il était plus court que les autres.
Ouais, en fait, c'est ça.
C'est con, mais il y a ça aussi. C'est qu'on essaie de plus en plus de faire des morceaux courts. Pas la peine de faire des trucs des fois à rallonge. Et celui-là, 3 minutes pile, il suffisait à lui-même. Tu vois, il y a un petit solo, mais c'est pas non plus un grand solo,
c'est
etc.
Pas un solo,
c'est une
intervention.
Voilà, c'est ça. Et donc, on avait le refrain qui était hyper punchy, qui rentre hyper bien dans la tête, plus le fait qu'il était court. Donc on s'est dit, pour lancer le disque 2 mois avant sa sortie, et faire une vidéo, autant prendre celui-là, quoi.
Mais c'est vrai que celui qui connaît Messaline, qui découvre ça, j'imagine, dans sa tête, il se dit, oula.
C'est
le grand écart musical.
C'est ça.
Le public, il a réagi comment à sa sortie?
Ah ben, super bien, parce qu'en fait il y avait un côté justement assez novateur dans Messaline. Comme je disais, c'était le premier morceau de rock'n'roll, tu vois, c'est le 7e album. J'ai regardé l'autre jour, par curiosité, le nombre de morceaux que j'ai déclaré à la SACEM. J'ai 80 titres déclarés à la SACEM, donc il y en a quand même une quinzaine ou une vingtaine pour Absurde aussi. Mais donc ouais, je pense qu'il y a, bien une soixantaine, de titres qui ont été enregistrés par Messaline, 60-70, bien 60. Bref, mais sur les 60, c'est quoi ? C'est le seul morceau rock'n'roll. Donc c'est vrai qu'effectivement, ça allait forcément surprendre les gens. Et donc les réactions, c'est ouais, bah disons, vous arrivez à faire ça ou etc. Il y a le journaliste de Rockart qui m'avait envoyé un message. Donc c'est pas le même qui a chroniqué le disque, mais un autre qui m'avait envoyé un message parce que il avait déjà mis en sur l'album d'avant le morceau Black Shaman où il y avait déjà eu un clip hyper bien, clip du jour, et puis là donc il avait revu ce clip là et puis pour lui c'était du il y avait un côté status quo, et il me disait putain ton refrain il rentre dès la première écoute, il rentre dans la tronche. Donc ça m'avait fait plaisir, et c'est vrai que lui il avait vu le côté côté status quo de Rock All Over the World.
Alors moi je me l'explique pas, ouais, parce que pour moi c'est on est quelque part entre les Who, les Kings,
ouais
mais bon,
ouais, bon après voilà, ouais, non, mais c'est donc tout ça pour dire qu'effectivement les réactions c'est ça change, et why not, hein, de toute façon si c'est pour réécrire à chaque fois le même morceau, bon il y a des groupes qui font ça, mais donc voilà, ouais les réactions
étaient... Il y a quelque chose qui est vraiment génial, enfin on va dire que c'est encore une fois un peu un grand écart musical, hein, mais entre ce morceau-là qui est vachement dansant, vachement funky, et le morceau qui suit, une ambiance complètement différente.
Eh ouais.
Et donc ce morceau, c'est Mordoré l'élite, et je vous propose qu'on se l'écoute et puis qu'on en parle un petit peu après.
Parfait.
Sous-titrage Société Radio-Canada.
Ah là là, cette mort dorée, Lilith. Un titre qui est quand même vachement, vachement différent, quoi. Très ambiant, un peu, je trouve, gothique pour moi. Mais...
Complètement.
Ouais.
Ah mais complètement, c'est vrai que... Alors, la genèse. Toujours pareil, Mathieu m'envoie ses petits plans.
C'est assez rigolo.
Ouais.
Parce que en fait, moi je joue tout le temps de la guitare, enfin souvent, et souvent devant la télé. C'est-à-dire que quand je regarde un film à la télé... Il y a des extraits musicaux qui m'inspirent, tac, je prends la gratte et tout. Et là, ce soir-là, je regardais un film d'horreur. Parce que ma femme adore les films d'horreur, enfin les trucs où ça gicle.
Les trucs où ça gicle, c'est pas des films d'horreur.
Gicle du sang.
D'accord, ok, ça marche.
Et donc, il y avait une ambiance qui était terrible, et j'entendais une espèce de musique et tout. Alors, je prends ma guitare, tac, et je fais la transcription. Et puis, je trouvais ça super intéressant parce que la suite d'accords, elle est Tim Burtonienne. Et du coup, j'ai improvisé beaucoup au couture. Et puis, je travaille en variation et tout ça. Et je me suis dit, putain, faut que je l'envoie à Eric. C'est venu assez vite, donc je lui ai envoyé. Et ça fait un peu comme avec Vieux Démon, où Vieux Démon, c'était le dernier morceau qu'on avait composé pour Vieux Démon. Parce qu'à l'origine, on avait un autre morceau pour l'album, mais qui ne trouvait pas sa place. Clairement. Donc on l'a écarté au profit de celui-ci parce que ça semblait convenir.
Non, oui, c'est ça. Et puis comme il y avait cette ambiance dans les accords très Tim Burton et voilà, donc moi je suis parti sur un texte comme ça sur Lilith, hein, la première femme, une femme forte aussi. Après, voilà, il y a une référence à des sorcières, à une sorcière en particulier d'ailleurs, une mort dorée, Lilith, donc voilà, une sorcière rousse, etc. Et puis on file en aiguille en écrivant ce texte. On s'est dit qu'il fallait pareil pour les arrangements musicaux, il fallait qu'il reste aussi dans ce côté un peu Tim Burton. Donc on a aussi pour ce titre-là fait appel à Alexis Ponceau et qu'il nous fasse des pianos de films d'horreur et puis très gothique, oui, Sleepy Hollow et compagnie. Là, on est vraiment là-dedans, dans le côté Tim Burton.
C'est ça.
Ça pourrait être totalement collé pour un sabbat de Bresse.
Oui, oui, c'est ça, ouais, un Bresse sabbat. C'est vrai que ce morceau, après les piqûres d'Hadès qui sont très, très joyeuses, donc là, on a le revers de la médaille, quoi. Et c'est vrai qu'il y a une ambiance bien particulière et c'est le dernier morceau qu'on avait composé pour le disque.
Et du coup, Mandoré Lilith, alias Lilith, est-ce qu'il y a un lien du coup,
Ah bah oui, bien sûr, parce que après avoir écrit le texte, quand il a fallu, après je commence à réfléchir pour un titre d'album, comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de références au côté un peu aussi démoniaque, tu vois, et côté Lilith, c'est une démone. Donc voilà, il y a beaucoup d'écritures aussi qui sont là-dessus. Donc je trouvais ça bien de mettre ça sur un titre du disque. Puis l'idée de l'alias, c'est les faux semblants, etc. Ce qu'on a développé après par la suite sur le visuel du disque.
D'accord, ok. Alors. Donc là, c'était des références un petit peu donc à la première femme, comme tu l'as dit, première femme qui était.
Ouais. Donc la première femme, donc c'est Lilith, voilà. Avant Ève.
C'est ça, juste avant Ève. Ouais. Ensuite, on a donc il y a plein de références historiques, plein de références mystiques un peu dans tous vos morceaux, notamment dans le prochain, justement, donc celui qui suit Mordoré Lilith et qui s'appelle donc l'Équerre d'Hiram et pareil, a un petit côté historique quand même dedans.
Ouais, mythologique, historique et surtout ésotérique. Là, les personnes, les initiés vont comprendre entre les lignes.
Alors, on va laisser les initiés et les non-initiés écouter ce morceau et on en parlera juste après.
We'll be right back.
Bon, alors du coup, juste après avoir écouté donc, l'écart d'Iram, j'ai un tout premier truc qui me vient en tête pour toi, Eric, en tant que chanteur, chanteur qui a fait les paroles. C'est quoi le dernier mot que tu prononces? Parce que pour moi, j'ai moule, mais j'ai pas la suite.
Yeah,
en fait, j'arrive pas à voir.
Mais t'avais pas les textes.
Si, je les ai.
Non, mais non, c'est mouillet, bien sûr, mouillet.
Ah.
Alors en fait, je parlais tout à l'heure, tu sais, lorsqu'on j'écris les paroles, je commence par du yaourt. Et là, c'est exactement l'exemple que je pourrais donner sur le truc d'écriture. C'est-à-dire que Mathieu envoie la musique, le riff, toujours. Donc souvent, c'est fait à la guitare acoustique, etc. Et puis, il y avait un côté hyper... surtout en acoustique, il y avait un côté hyper balancé, chaloupé de riff à la Led Zeppelin, un petit peu, tu vois. Et c'est vrai que tout de suite, quand t'entends des trucs comme ça, à la Led Zeppelin, tout de suite, j'étais là... Ouh, yeah, tu vois, à la... Voilà, comme ça. Et je me disais, voilà... Donc tu fais du yaourt, ouillet. Puis je dis merde, putain, faut que je garde ça parce qu'en fait ça balance bien avec le riff. Et après j'essaie de voir quel mot français pourrait sonner comme ouillet. Ouais, puis après bah ça a été mouillet parce que mouillet on y est quoi. C'est-à-dire que ouais, effectivement on est sur ce qu'on entend à l'oreille et pas forcément ce qu'on comprend à l'écrit. Et c'est vrai que comme je parlais effectivement d'un assassinat d'Hiram qui était un architecte sur les pyramides d'Égypte, etc. Bon, la barque d'Anubis, bah, elle mouillait au bord du Nil, quoi, tu vois, du Nil. Donc voilà, ça fonctionnait bien, quoi.
Donc tu fais pour avoir toutes ces références, parce que
qui
va parler de Hiram.
Alors c'est par rapport à mes lectures, je lis quand même beaucoup de polars historiques, ésotériques, et puis souvent voilà, je lis beaucoup les Giacometti, Ravenne, et c'est vrai que ces auteurs-là, dans leurs personnages, il y a toujours une partie qui est avec leur, c'est un commissaire franc-maçon qui fait les enquêtes, et souvent il y a des références effectivement aux sociétés secrètes, aux choses comme ça, etc. Et c'est vrai que il y a souvent, c'est un chapitre qui se passe dans les années 2000, et puis chapitre d'après c'est l'histoire dans l'histoire, et donc des fois ça se passe au Moyen-Âge, etc. Et puis c'était un bouquin que j'avais lu, ça se passait effectivement dans l'Égypte ancienne avec une société secrète maçonnique, et donc il y avait cet architecte, il le cite 2-3 fois, tu vois. Et ça m'a donné envie d'aller chercher plus de choses sur Hiram. Mais c'est vrai que c'est un des piliers de la maçonnerie, quoi.
D'accord. Et musicalement, justement, comment est-ce que vous avez essayé de retranscrire un peu toute cette symbolique, alors, un peu tout cet ésotérisme?
Alors en fait, on a rien retranscrit du tout, parce que la musique, je l'avais composée en 1996. Hiram, en fait, quand je vivais sur Paris en tant que musicien, j'ai composé toute une série de morceaux. Je m'inquiétais beaucoup, je travaillais beaucoup, et je ressors de temps en temps, à travers les divers groupes que j'ai eus, de mon chapeau, des choses qui me semblent un peu collées. Et il y avait une série de morceaux où il y avait justement Hiram qui existait, qui était dans une... Alors, pour parler technique, c'est un morceau que j'avais enregistré en drop D, c'est-à-dire c'est les accordages un peu gras, tel qu'il est sur l'album. Et dans Messaline, c'était pas à l'ordre du jour, ce genre de choses. J'avais fait une nouvelle version de maquette que j'avais envoyée dans une autre tonalité pour l'adapter à la voix de... Je m'étais basé sur le la, enfin, je vais pas rentrer dans le détail parce que ça va ennuyer tout le monde, mais parce que ça allait bien sur divers morceaux de Messaline où Eric il chante en là. Et je voulais pas mettre du drop D parce que ça collait pas à l'atmosphère de Messaline. Donc on a dû faire au moins 5 ou 6 versions différentes d'Hiram. Au début, il y avait un pont central, c'était beaucoup plus complexe. Puis au bout d'un moment, on avait une espèce de déception entre nous. On sentait qu'il y avait le truc, mais que ça décollait jamais vraiment. Et un soir, j'ai dit, je vais quand même refaire une maquette et je vais le réenregistrer tel que je l'avais fait, conçu au début. Et en mettant plus en valeur le refrain. D'ailleurs, le morceau, il y a un thème. qui ouvre et qui ferme le morceau. Et j'attaque, on attaque directement par le refrain, parce que c'est vrai qu'il y avait ce truc. Voilà, et je me suis dit, tiens, ce serait pas bête. Voilà. Et puis après, j'ai écouté Kiss aussi, un morceau qui s'appelle God of Thunder. Et parce que c'était, les structures sont importantes, hein. Donc intro, après refrain, couplet, refrain, puis au final, j'ai remarqué que Kiss, souvent, ils faisaient un couplet, un refrain, et ils enchaînaient deux couplets à la suite. Et c'est ce que j'ai mis en place pour Hiram, et en fait, ça a fonctionné comme ça, et donc du coup, ça a trouvé sa solution. Donc on est revenu à la forme originelle, et puis après, comme on avait déjà bien bossé entre-temps sur le morceau, ça s'est bien assemblé, et puis voilà. Il y avait un refrain qui était différent d'ailleurs.
Oui, tout à fait.
Qui a été changé, au niveau harmonie des voix. Puis voilà, puis okay. ça s'est bien goupillé. Comme
puis il y a un côté un petit peu, voilà, il y a un côté un petit peu oriental, donc on est bien dans cette Égypte mystique, quoi. Voilà.
Ah ben ça me, enfin c'est vrai que c'est pas faux. J'allais dire le côté oriental me rappelle un peu ce que vous aviez fait avec Mélina et tout ça, un peu.
Ouais, dans le côté de, donc qu'on avait fait. Ben,
c'est la même tonalité.
Ouais, c'est la même tonalité du triptyque qu'on avait fait sur un album où on était sur dans l'album Illusion Barbare, on avait fait un triptyque sur les Templiers. Effectivement, sur trois morceaux, j'avais fait une espèce de mini-concept sur quête templière à Jérusalem. Il y a un morceau aussi qui s'appelait « À Jérusalem », etc. Et c'est vrai qu'entre la tonalité et puis ce côté un peu ésotérique qu'on peut retrouver dans les Templiers, ouais, c'est... Ça peut être ça aussi.
Alors, juste pour info, à l'origine, le de l'intro et de la sortie du morceau, à l'origine, je l'envisageais comme un truc à la Pantera. En fait, ils avaient sorti l'album The Great Southern Tranquil et ils avaient un truc comme ça. Et je me suis dit, putain, il faut que je fasse un truc dans ce genre-là. Quoi. Donc, ouais. Donc, le côté oriental, il est apparu après. Mais
on verra si dans le prochain album de Mussolini, il y a un côté Pantera. On va bosser la voix un peu comme ça.
Ouais, c'est ça, un côté Panthère noir.
Donc là, c'était plus l'écart d'Hiram Mathieu, l'origine du morceau. Alors, je propose qu'on continue, puisque là, on arrive donc au cœur de l'album avec le prochain morceau, qui est donc tout simplement Orion va se venger. Orion va se venger, des confins de l'univers. Orion va se venger.
Manger, te réduire en poussière. Paris, Paris,
c'était donc un titre vachement original, puisque du coup, c'est un morceau très historique, on pourrait dire, en termes de.
Ouais, historique. Oui, complètement.
Y a pas que vous là-dessus.
Ouais, je crois que tu allais parler historique par rapport à Orion. C'est beaucoup. Parce que là, c'est les dieux et tout ça. Mais, tout à fait. Donc, c'est la suite. Alors, au niveau du texte, c'est la suite de Orion Stargazer qui est sur Vieux Démon, où là, on avait invité en plein de monde, effectivement, donc les deux meilleurs chanteurs de prog, c'est-à-dire Pierre Victoria de Galad, groupe suisse, puis Tristan Descamps de Ange, presque les deux meilleurs chanteurs de heavy metal, c'est-à-dire Joe Amore de Nightmare, puisqu'il revient dans Nightmare, King Crown, et Renaud Hanson de Satan Jokers. Et on avait aussi Francis Descamps qui avait fait un solo de clavier. Et donc, quand Mathieu m'a proposé le morceau, etc., il était très rapide, un peu, il avait un côté très, très motorhead.
C'est pas ça. En fait, tu m'as dit, on avait presque fini, on avait composé plein de morceaux. Il m'a dit, il manque quand même un morceau qui carbure un peu.
Ouais, c'est ça. Ouais. Oui, il y a aussi. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Okay, voilà. Hein, comme quoi. Voilà. Et donc, effectivement, il me dit, tiens, je vais te faire un truc à la Motorhead. Blablabla. Ok, toc. Et puis, il me dit, rapide comme ça, il va pas être loin d'un morceau de Messaline qu'on avait fait avec Stéphane Cordovado, le premier batteur. Et le morceau qui s'appelle Espèce d'icône, qui est sur le deuxième disque, dans Une Coda Venenum. Et c'est vrai que quand Mathieu est arrivé dans Messaline avec Alain, on le jouait sur scène. Alain, il adorait parce qu'il aime bien quand ça part en double de partout. Quand il m'a envoyé le truc, je dis putain, ça fait presque une V2, une version HD ou V2 d'Espèce d'icône. Donc, super, ça me plaît bien. Après, donc, tout de suite, je me suis dit, c'est un truc hyper violent, donc qu'est-ce que je pourrais mettre comme truc violent? Puis je me dis, tiens, je vais écrire la suite d'Orion, ils l'ont laissé sur Terre, et puis il va tout déboîter, puis il va raser l'humanité, de toute façon, on mérite que ça, et à titre personnel, je le pense aussi. Et comme, effectivement, il y avait un côté morceau de Messaline, première époque, espèce d'icône, je voulais boucler la boucle aussi ce côté-là. Et comme dans Orion, le premier Orion Stargazer, il y avait des invités nationaux, etc., j'ai proposé à Mathieu, j'ai dit, et si on faisait revenir Coco, guitariste fondateur de Messaline, sur ce titre pour faire un solo épique comme il faisait. Donc on l'a contacté, ouais. il m'a répondu ok tout de suite. Et c'est vrai que je trouve ça super parce qu'effectivement, il y a le vieux Messaline là-dedans, quoi, le côté un peu rapide, un peu heavy.
C'est la nouveauté de Messaline avec le style un petit peu ancien.
Ouais, c'est ça. Et puis il y a un mini break à la fin du solo qu'on entend. Là, il y a un mini break avant de reprendre sur le dernier couplet. Et puis le break, là, tin, 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 c'est le break d'espèce d'icône d'origine. Donc il y a un vrai clin d'œil aux plus anciens auditeurs et fans de Messaline.
Ouais, franchement, c'était très plaisant à écouter.
Merci.
Et je me demande si peut-être dans le prochain album, on aura peut-être la suite avec Orion.
Peut-être.
Après qu'il ait rasé tout.
Ça
peut être une idée.
Ouais. Ça peut être une idée.
Ouais. Le nouveau règne animal.
Ouais. Ouais, ça. Le nouveau règne animal. Exactement ça.
Je propose qu'on passe donc au sixième titre de l'album, parce que sixième sur neuf. Voilà, donc on est bientôt à la fin, mais pas encore.
Il y a
un petit nom féroce qui porte le doux nom donc, de Commando Héros.
violence, enfant tombé au combat. À la vie, à la mort, mère Amazonie vitale. À la mort, à la vie, à l'aurore agonie d'une faim cannibale. Vivons leur corps toxique et vibrons à fleur de peau. Rappelle maintenant romantique, mourons pour leurs idéaux. Eh oh, comment nos héros. Eh oh, comment nos héros. Eh oh, comment nos héros. Eh oh, comment nos héros.
Je sais pas pourquoi, mais cette fin de Commando Héros, elle me fait penser encore un peu à un truc pistique, un peu vraiment.
Ouais. C'est l'intro et puis la fin qui queen un peu comme ça. C'est pas fait au clavier, c'est fait à la basse. C'est Charlie qui nous a proposé ça, qui a créé ça à la basse avec ses pédales et les effets.
Okay. Voilà. C'est quoi ce Commando Héros?
Alors Commando Héros, tout attaché, effectivement, c'est le seul texte entre guillemets politique ou en tout cas engagé du disque que j'écris, parce que c'est vrai que souvent j'écris sur des trucs qui est pas trop politique. Et là c'est vrai que c'est pour des guerrilleros qui luttent contre la déforestation et essaie de préserver mère Amazonie vitale, l'Amazonie. Donc c'est vrai que voilà, donc je suis parti là-dessus, et puis que voilà, c'est la lutte. Alors après il y a des clins d'œil à Che Guevara, etc., mais c'est pas le côté politique, d'un bord politique forcément, c'est plus pour une grande cause, quoi, sur l'Amazonie.
Et ce côté un petit peu guerriero, un petit peu comme ça, défense, et ça, vous l'avez retranscrit. Comment vous avez choisi que ça sonne comme ça musicalement?
En fait, il faut relativiser ce que je vais dire. Musicalement, ça reste quand même assez pauvre, Commando
Héros.
Il y a deux accords, enfin bon, tout est une histoire d'arrangement en fait. Ce qui prédomine dans ce morceau, c'est le rythme. L'aspect percussif de la batterie qui fait le côté tribal, en adéquation avec la forêt amazonienne, tout ça. Et puis un refrain beaucoup plus élancé. Sinon à part ça.
Alors on nous a signalé dans deux chroniques déjà, ou depuis moi dans plusieurs autres interviews radio que cette intro c'était l'intro du morceau Black Sabbath de Black Sabbath.
Alors oui, alors en fait il y a un truc sur Alias Lilith, moi au niveau de la compo, j'ai dans chaque morceau, il y a l'intervalle du diable. C'est-à-dire que c'est quelque chose que j'ai... C'est-à-dire que c'est une quinte diminuée, fondamentale quinte diminuée. C'est quelque chose auquel j'ai accordé beaucoup d'importance, parce que quand je compose pas par hasard. Hein. C'est très axé là-dessus. Et l'intervalle du diable, c'est quoi? C'est le morceau Black Sabbath. Hein. Sauf que nous, on a fait... Voilà. Donc oui, c'est archi classique, hyper couru.
Mais c'est vrai qu'on le retrouve dans tous les titres. On aurait pu presque appeler l'album L'intervalle du diable. C'est joli, hein?
On aurait pu.
Ouais. Heureusement que j'ai déposé pour les auditeurs. Je l'ai déposé à la SACEM, ce titre.
On garde voilà. Le nom de l'intervalle du diable.
Voilà. Donc vous connaissez déjà le titre du nouvel album.
Après, le côté Black Sabbath, personnellement, moi je le sens pas trop. Je trouve qu'on est plus près de Faith No More. Mais bon,
complètement. Alors moi, sur le pont.
vibrant, leur peur toxique, etc. Face No More, complètement.
Voilà, c'est ça. Ah ouais. Voilà. Peut-être que vous irez enregistrer le clip du morceau dans la forêt d'Amazonie, mais alors peut-être pas aussi loin, mais il y a la forêt de Seyon qui est pas loin.
La forêt de Seyon qui est pas mal. Ouais.
Avec des poules.
Avec des poules.
Voilà. Alors on va poursuivre un petit peu vers la fin de l'album. Encore trois titres à découvrir et pas des moindres. Je vous propose qu'on parte ensemble à la découverte du Papillon Noir.
C'est vampire, cette rousse met en transe. Tous les hommes sont surpris. Elle cache sous sa robe ses plus beaux attributs. La décence se dérobe comme un ange déchu. Sourire à la mauvaise,
important tes histoires. Tes ailes sont repliées, triste et beau papillon noir. 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 Triste et beau papillon noir.
Alors, je ne suis pas Alice au Pays des Merveilles ou Néo dans Matrix, je ne suis pas le lapin blanc, je préfère suivre le papillon noir de Messaline. Alors, dans cette chanson-là, je vois très clairement un parallèle un petit peu avec le style prog un petit peu du groupe Ange. Dans la, moi, je trouve, dans la narration et un peu les arrangements. Je ne sais pas si vous pouvez me rejoindre ou si ce n'est pas du tout ça.
Alors, alors, moi, je vois... dans la suite musicale, parce qu'il y a du refrain, moi, je vois un petit peu un côté un peu Gainsbourg, moi. La période de Mélodie Nelson dans l'enchaînement des accords. Après, la montée avec le solo de guitare, elle a monté avec les chœurs que j'ai fait exprès en vibrato. C'est vraiment un clin d'œil, un hommage appuyé au groupe anglais Uriah Heep. Et notamment les Damon, ils faisaient absolument les mêmes sur l'album Damon and Wizard. Donc là, c'est vraiment pour le coup la référence musicale, le Uriah Heep. Voilà, moi je voyais un petit peu un mini côté Gainsbourg, mais pas forcément dans le style de chant, mais dans la musique, puis dans le truc comme ça. Bon, après Ange, je prends aussi, hein.
Alors moi, je suis sceptique. Moi, quand je l'ai composé, ce morceau, en fait c'est un des rares morceaux où j'avais fait la musique et t'as écrit le texte est venu
après. Ouais.
Pour moi, techniquement, c'est le morceau le plus complexe de l'album. Si quelqu'un qui veut s'intéresser un peu à l'harmonie du truc, ça va loin. Moi, j'ai joué à un moment donné dans un groupe tribute David Bowie, qui m'a clairement influencé dans l'écriture de ce morceau. Donc ça, et puis à l'époque j'écoutais beaucoup Uriah Heep aussi, donc je dirais que ce morceau c'est un croisement
Spiders of Mars quoi, du coup
entre du Uriah Heep et du David Bowie.
Mais je dis ça
un petit côté Pink Floyd et Gainsbourg est pas loin au milieu,
sur le pont,
le clin d'œil de Melody Nelson existe
tout à fait,
mais techniquement c'est une compo dont je suis très fier, voilà.
Mais comme tout l'album, j'espère.
Oui, tout l'album, mais là, quand j'ai envoyé la maquette à Eric, je lui ai dit c'est mon chef-d'œuvre. C'est-à-dire que pour faire mieux, sur ce type d'harmonie, et le pire dans tout ça, c'est que c'est sorti très vite. Ça a dû me prendre une demi-heure à composer ça, quoi.
Bah c'est bien, justement, c'est positif. C'est-à-dire que du coup, tu arrives à composer des choses vachement complexes en peu de temps.
Oui, et puis il y a des choses qui sont beaucoup moins complexes, qui prennent longtemps, comme on le verra tout à l'heure.
Et c'est vrai que, tu vois, c'est marrant ce morceau, parce que c'est vrai qu'il n'a pas du tout à coucher dans la douleur, parce que moi, c'est un peu pareil. J'avais tout de suite mon idée de ce que je voulais écrire. Hein. En fait, là, c'est vraiment une référence aussi. J'avais vu une série sur Arte qui était extraordinaire, qui s'appelait Les Papillons Noirs, d'accord. Et avec Nicolas Duhauchel et le Niels Arestrup. Et en fait, ça m'a vachement influencé, effectivement, parce que c'est ça, c'est une histoire d'une... Bon, je vais pas faire le pitch parce que c'est compliqué. Mais en fait, voilà, c'est une serial killer qui bute des touristes l'été avec son mari, qui la couvre. Parce que finalement, il dit que c'est lui qui avait fait le truc, mais on comprend. Bah, je ne vais pas spoiler, mais enfin, bref, tout ça. Et je suis resté sur l'idée, effectivement, de ce papillon noir, qui est donc une nana qui est une serial killer. Des années 70, donc c'est pour ça que ça collait bien avec la couleur musicale que Mathieu m'avait proposé. On est vraiment dans le Pink Floyd violent,
c'est ça.
Voilà, c'est ça.
Alors on souligne aussi, il y a Alexis Ponstreau
qui est venu me faire les orgamones. On voulait vraiment sur celui-là les orgamones vraiment vintage qu'on a dans Uriah Heep ou
c'est vraiment un hommage appuyé, effectivement,
complètement. Voilà.
Mais il est réussi, franchement. Bon,
merci.
Je suis fier de toi pour ce morceau.
Merci.
Alors, je propose qu'on enchaîne avec un titre donc, qui explore encore une fois donc, l'univers dont on parle depuis le début, hein, qui a l'air d'un peu de fasciner Messaline, déjà depuis le début aussi. Un petit peu donc, les forces occultes, l'alchimie, un petit peu les mystères cachés.
Oui, c'est ça.
Et vous allez nous présenter donc, au travers du prochain morceau, Maître Flamel. Et on va plonger donc dans cet imaginaire énigmatique et mystérieux, mêlant donc puissance musicale et symbolisme occulte.
Yeah.
Et c'était donc Maître Flamel, donc Nicolas Flamel, qui est tout simplement une figure légendaire liée aux forces occultes. Qu'est-ce qui vous a inspiré justement chez lui pour écrire ce morceau ?
Alors le truc c'est toujours pareil, hein. Mathieu m'amène des choses et c'est vrai qu'il m'avait envoyé des choses.
Le morceau il durait un quart d'heure à la base.
Ouais, c'était une impro d'un quart d'heure avec et il y avait cette rythmique qu'on a sur les couplets, qui faisait vraiment Black Sabbath aussi. Et donc voilà, quand t'as un truc qui sonne Black Sabbath, tu te dis tiens je vais écrire un truc un peu occulte forcément. Et donc je me suis mis un pied au culte pour me bouger un peu et pour repartir dans les trucs. Et puis c'est vrai que moi j'avais l'idée de Flamel depuis longtemps. Je dis tiens, moi j'aime bien les personnages hystériques, historiques et puis légendaires comme ça. Et je me dis, mon Dieu, j'avais pas encore écrit sur lui. J'avais déjà vu des reportages effectivement sur lui, parce que moi je suis un fan des replays sur Arte où il y a plein de choses magnifiques qui m'inspire. Et donc j'ai trouvé que c'était le bon moment d'écrire sur ce personnage. Et c'est vrai que comme le morceau, ce que disait Mathieu, c'est quand il avait envoyé cette impro au départ, elle durait 15 minutes, donc forcément tu te dis tiens, il faut un truc épique. Donc pour moi, dans la tête, quelque chose d'épique, c'est quelque chose qui va être construit avec une vraie longue histoire à faire, avec plein de choses à dire. Donc voilà, ça a matché pour faire un texte sur Flamel. C'est vrai qu'il y a tellement de choses à dire, et puis il y a plein de passages dans ce morceau qui donne un morceau un petit peu à tiroir, presque prog. De toute façon, les trois derniers titres, Papillon Noir juste avant, tu me parlais de Ange, etc. Nous, on parlait de Pink Floyd, donc on a un peu un côté prog. Celui-là est prog dans le sens où il est à tiroir, et celui qu'on va écouter après aussi pareil à tiroir. Et c'est vrai qu'on finit le disque avec trois grandes pièces, quoi. Et c'est une volonté aussi de notre part de finir de cette manière le disque.
Maître Flamel, c'est vraiment un morceau à tiroir, parce qu'en fait c'est la même chose interprétée de trois façons différentes, musicalement. Y a une suite d'accords vraiment basique qui utilise d'ailleurs des accords de jazz sur le refrain. C'est ce qui donne cette couleur un peu hyper mélodique du refrain. Avec les deux voix, tout ça, ça va bien, et qui permet de faire le passage central beaucoup plus aéré, beaucoup plus acoustique. C'est très intéressant à faire. C'est assez simple en fait.
Alors donc justement, on va s'écouter donc le dernier morceau bientôt donc de l'album, parce qu'on arrive donc cette fois à la fin de l'émission. De cette écoute intégrale de Alias Lilith, votre dernier opus. Donc dernier morceau, donc on disait un peu plutôt prog aussi,
pas forcément prog, mais plutôt à tiroir, très pop. Alors ça, c'est le morceau le plus pop. C'est du pop rock, c'est un peu poppy.
Ça reste le titre le plus long de l'album, donc du pur rock français qui dure tout simplement 6 minutes 46.
Oui, c'est ça.
Peut-être que la démo de celle-là, elle faisait 20 minutes, donc 30 minutes.
Non, mais on y reviendra
après. Si tu veux, oui. Alors justement, comment est-ce que toi, donc tu as appréhendé donc ce dernier morceau qu'on va écouter, qui s'appelle donc Constantinople?
Moi?
Oui.
Alors, faut savoir que Constantinople, à l'origine, c'était un morceau qu'on avait travaillé pour sortir sur Vieux Démon.
Ouais.
Et qui a été écarté parce qu'il ne correspondait pas aussi, comme on l'a fait pour Alias Lilith, pour l'autre. Là. On n'avait pas trouvé le truc. Donc le refrain était déjà composé. On a été beaucoup hésitant sur le couplet. Ça a été très compliqué. On a fait une version presque Trust. J'ai fait une version presque Red Hot qui avait lancé le truc, qui était beaucoup plus complexe. Et puis on trouvait pas. Il faut savoir que Constantinople, c'est à peu près 7 ans de boulot de composition.
Et donc ça reste quand même un morceau.
C'est un des premiers morceaux qu'on a attaqué ensemble au début où je suis rentré dans Messaline. Voilà. Donc il y avait une autre intro. Et puis un jour, j'ai improvisé chez moi et puis j'ai trouvé cette petite intro de guitare RPG très scorpionesque. voilà, l'idée c'était de se rapprocher des riffs de Rudolf Schenker avec une guitare un peu. Parce que j'avais beaucoup adoré quand Roger Waters avait fait le tribute à The Wall où il avait fait jouer plein de groupes, l'intro était faite par Scorpion. Et j'avais trouvé ça fabuleux. Et en fait, j'ai cherché à retrouver cet esprit quand j'ai amené cette intro de Constantinople. Et le reste du morceau était déjà presque abouti, mais il manquait quelque chose pour... voilà. Et j'ai proposé ça à Eric et assez vite, ça s'est enchaîné. Et après, bon, il y a eu tout un travail d'harmonisation qui a été à faire parce que du coup, c'était un peu... Voilà, mais et pour rassembler le tout et faire en sorte que ça crée du lien. Le refrain texto, voilà, on a simplifié des choses pour faire en sorte que ce soit lisible. Et puis la fin, on a posé théose guitaristique avec nos amis Raph Kipochereau
de Diesel Dust
qui fait le premier solo, d'accord, notre copain Mallory Marais qui fait le deuxième solo et moi qui fait le finish. Voilà, c'est sympa.
C'est un morceau participatif aussi.
Ouais, c'est un morceau participatif avec une belle prédominance acoustique.
Ok. Alors, merci vraiment pour ces explications. Je ne sais pas si toi, Eric...
Non, c'est ça. Moi, je n'ai rien d'autre à ajouter. C'est vrai que, voilà, je suis parti sur... j'avais écrit un texte sur Istanbul dans Absurde, dans mon premier groupe. Mm-hmm. Voilà. Et je n'avais encore pas tout dit ce que je voulais dire. Puis, comme on était dans les alias, Istanbul, qui est alias Constantinople. Mm. Donc, voilà, je trouvais que c'était bien de partir aussi là-dessus. Et c'est vrai que là, pour le coup, voilà, je parle de cette ville-là, mais en tant que femme idéale, quoi, presque. Hein, voilà, belle anatomie.
Encore cette femme rebelle anatomie. Au
ouais, tout à fait, ouais, cette femme idéale, hein, que voilà.
Bon, on va rester sur cette femme idéale. Voilà. Merci franchement à vous deux de nous avoir ouvert les portes de l'univers de Messaline.
Merci
d'avoir
à toi.
Partagé avec nous les coulisses de la composition et de la création et de l'enregistrement de Alias Lilith.
Merci.
Alors pour les auditeurs qui nous ont écoutés puis qui ont plongé avec nous dans ce nouvel album, qui voudraient la prolonger un petit peu chez eux, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu où est-ce qu'on peut l'écouter en streaming?
Sur toutes les plateformes de téléchargement, j'en disais tout à l'heure, Spotify, Deezer et compagnie. Voilà.
Et puis en format physique aussi.
Et en format physique, et de toute façon, notre label Brennus le met que ce soit dans les Cultura, les Fnac et compagnie, etc. Et puis les versions vinyle, par contre, effectivement, il n'est pas distribué dans les grands magasins, entre guillemets. On est sur des shops sur Bourg, hein, donc Mala Yerba qui est pas très loin d'ici d'ailleurs, la radio. On a Spin the Black Circle à Bourg. On a aussi le Vinyl Social Club géré par la tannerie. Et on a aussi en VPC chez Adipocer Records sur Vinyl and Vintage chez Quadriphonics. Donc en fait, voilà, on peut le trouver. Et puis sur notre stand, nous, perso de merch.
Alors justement, voilà. Tu parles de stand perso de merch, je pense que ceux qui ont écouté ce soir et qui ont bien aimé ce que vous avez fait peuvent vous retrouver en concert dans pas longtemps, il me semble.
Oui, mais alors là, c'est un scoop, hein. On a su ça il y a deux jours, on remplace un groupe sur un concert de quatre groupes à la MCC donc de Bourg-en-Bresse, le samedi 2 mai, ça s'appelle La Nuit des Riffs, donc on va proposer pratiquement en intégralité, l'album Alias Lilith et d'autres titres. Donc, n'hésitez pas à venir nous supporter.
Comme tu disais justement, voilà, partage de la scène avec les quatre groupes qui sont dans des styles plus ou moins variés. On a quand même Mazed qui fait du metalcore, Ghetto Paradise plutôt new metal années 2000, et puis Ever After dans le metal symphonique. Et vous, du coup, qui apportez un peu ce hard rock 70s,
ouais.
Donc qui est justement, c'est une soirée très éclectique.
Exactement.
Qui peut être justement très intéressante à découvrir.
Yes.
Donc effectivement, cher public, venez en masse à ce concert qui s'annonce tout simplement électrique. Alors les gars, on va donc se quitter maintenant. Est-ce que vous avez un dernier petit mot à partager? Vous pouvez dire ce que vous voulez, hein. C'est le moment.
Non, mais merci de nous avoir écoutés. Et puis j'espère que...
prendrez autant de plaisir à réécouter l'album qu'on a pris de plaisir à l'enregistrer et à le faire.
Merci.
Voilà, super. Belle conclusion. Non, mais mieux, hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous voulez investir un peu dans Messaline, achetez les albums parce que nous, on fonctionne, on n'a pas de subvention, tout, on est beaucoup sur fonds propres. On s'organise, on y passe du temps, on y passe pas mal d'argent, c'est par la passion, parce que ça nous rapporte rien, à part le droit de faire des nouveaux disques. Voilà, on a tous un boulot à côté, donc si vous aimez, ben, faites l'effort d'acheter, ce sera top. Merci.
Effectivement, tu dis que vous y passez du temps, 30 ans des fois pour certains morceaux. Donc,
ouais, c'est ça.
Donc effectivement, ça prend du temps de composer.
Ouais, c'est une passion. C'est une passion.
On va rester sur ces mots-là en tout cas. Merci. Et on se quitte donc pour voyager ensemble à Constantinople. Cher public, je vous retrouve dans 15 jours et attendez-vous à rester un petit peu dans le côté 70s parce qu'on va voyager un petit peu à la découverte des origines du métal sur Terre.